VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en votre compagnie, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition, le monde aujourd'hui, du mercredi 4 septembre 2019, au sommaire. En Afrique du Sud, retour au calme à Johannesburg après 3 jours d'émeutes xénophobes qui ont fait au moins 7 morts. Le pape François effectue une visite d'une semaine en Afrique avec une première escale au Mozambique. Brexit, Boris Johnson est engagé dans un nouveau bras de fer avec le Parlement britannique. L'ouragan Dorian se dirige vers la Floride, au sud des États-Unis, après avoir semé mort et désolation aux Bahamas. Dans 10 minutes, rendez-vous avec l'actualité économique, puis les sports, mais tout d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, à un an de la présidentielle de 2020, le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement sans grand changement, dominé par sa formation politique et marqué par la création d'un ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent gouvernement et 7 secrétaires d'État contre 5. Toujours en Côte d'Ivoire, le procureur d'Abidjan, Richard Hadou, a annoncé lors d'une conférence de presse que ses service allait désormais réprimer plus sévèrement les dérives sur Internet et les réseaux sociaux, menaçant les administrateurs et modérateurs de poursuites. Cet avertissement intervient dans le sillage de la mort du chanteur Didier Arafat, avec la diffusion d'images de son corps après son accident, puis exhumées après la profanation de son corps. En Afrique du Sud, le calme est revenu à Johannesburg et le township d'Alexandra, théâtre d'hier d'émeutes xénophobes. La police patrouille les rues pour prévenir de nouvelles violences après 3 jours d'attaque et de pillage. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des magasins ont rouvert tandis que certains habitants fouillaient les décombres pour récupérer de la nourriture. Le président Cyril Ramaphosa a de nouveau condamné ces violences. S'en prendre à des étrangers n'est pas la bonne attitude, a-t-il déclaré, ajoutant, je cite, « que tout le monde est bienvenu en Afrique du Sud ». Le Nigeria a dépêché un émissaire spécial. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a condamné toute forme de violence alimentée par la haine, saluant la réponse rapide des autorités sud-africaines. Le Botswana a appelé ses concitoyens sur place à faire preuve de prudence. Depuis le début des violences dimanche, au moins 5 personnes ont été tuées et près de 300 arrêtées. Des dizaines de magasins ont été détruits à Johannesburg et à Pretoria. Des camions ont aussi été brûlés dans le KwaZulu-Natal parce que leurs conducteurs étaient des étrangers. En 2015, 7 personnes ont été tuées au coup de pillage de commerce tenu par des étrangers à Johannesburg et à Durban. En 2008, des émeutes xénophobes ont fait 62 morts dans le pays.
Par ailleurs, 2 corps ont été retrouvés carbonisés à Johannesburg dans un commerce réduit en cendres au cours de ces violents xénophobes. La police va mener des enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Au Nigeria, ce sont des échauffourées qui ont éclaté ce matin à Abuja autour d'un supermarché sud-africain malgré un renforcement du dispositif sécuritaire à travers le pays après des appels au boycott pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. 100 de personnes sont impliquées. D'ailleurs, MTN Nigeria a fermé ses bureaux jusqu'à nouvel ordre dans 3 grandes villes du Nigeria. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant de Paul Biya, sera jugé vendredi par un tribunal militaire pour insurrection et hostilité contre la patrie, des accusations pouvant entraîner la peine de mort. Les ONG internationales dénoncent un procès politique, tandis que la France, les États-Unis et l'Union européenne réclament sa libération après 8 mois d'emprisonnement. Au Niger, l'alerte rouge lancée en début de semaine est maintenue suite à de fortes intempéries. Plusieurs quartiers de Niamey sont dévastés par les inondations dues à la crue du fleuve Niger. Une équipe de pompiers sillonne d'ailleurs les zones affectées pour recenser les victimes et évaluer les dégâts. Au Sénégal, une école catholique renommée de Dakar, la capitale, a refusé d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile en vertu d'un nouveau règlement qui suscite la polémique dans ce pays majoritairement musulman et réputé pour sa tolérance religieuse. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a estimé dans un rapport qu'un climat de peur régnait dans ce pays à moins d'un an des élections générales en 2020. Nous y reviendrons plus en détail dans notre partie magazine. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place de visas électroniques d'entrée dans le pays et le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens. Le dernier recensement de la population remonte déjà à 1984. Par ailleurs, la RDC se prépare à tenir son premier forum African Digital Story en avril 2020 selon la présidence congolaise. Deuxième tournée africaine du pape François qui commence par le Mozambique où il vient d'arriver. Un voyage de 7 jours qui le conduira aussi à Madagascar et à Maurice. Nathalie Barge.
Le pape François va célébrer une messe vendredi, 31 ans après le passage à Maputo de Jean-Paul II. Sa visite, qui porte sur le thème de la paix, intervient un mois après la signature d'un accord entre le gouvernement et l'ex-rébellion de la Renamo. Dans un message vidéo en portugais, diffusé la veille, le pape a appelé à renforcer la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable. Il devrait aussi s'exprimer sur l'urgence climatique. Après le passage en mars sur la ville de Beira du cyclone Idai et qui a fait 600 morts et 2 millions de sinistrés. Le souverain pontife se rendra ensuite à Madagascar où 800 000 fidèles sont attendus à la messe dimanche dans la capitale Antananarivo. Il doit terminer son voyage par une visite éclair à l'île Maurice.
En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes ont perturbé au Cap le début d'une réunion du Forum économique mondial consacré à l'Afrique pour dénoncer les meurtres de femmes et les viols dans le pays. En France, ce problème est également pris au sérieux. Une campagne de sensibilisation et un projet de loi sont en cours car une femme est tuée par son époux, son partenaire ou son ex-compagnon tous les 3 jours. Nous y reviendrons dans notre segment magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a engagé un nouveau bras de fer avec le Parlement britannique. Aujourd'hui, les députés ont adopté ce mercredi en deuxième lecture une proposition de loi demandant au gouvernement de réclamer à l'Union européenne un report du Brexit. Le point avec Jacques Aristide.
Pour Boris Johnson, c'est une loi de capitulation. Mais pour ses promoteurs, il s'agit d'une mesure essentielle pour empêcher un désastre économique. Mise en garde toutefois du chef du gouvernement, si les parlementaires votent en faveur du texte contre le no deal et donc contre le gouvernement, Boris Johnson évoque l'éventualité d'élections législatives anticipées le 15 octobre. Mais le Labour, principal parti d'opposition, a déjà rejeté l'idée. Hors de la Chambre des communes, des élus anti-no-deal s'en sont remis aux tribunaux. Mais leur demande de bloquer la suspension du Parlement a été rejetée aujourd'hui. Deux autres actions en justice sont en cours, dont l'une examinée jeudi à Londres. Boris Johnson a perdu sa majorité absolue au Parlement avec la défection d'un député. Le Parti conservateur est déchiré comme jamais après l'exclusion de 21 députés. La sortie de l'Union européenne divise le pays depuis plus de 3 ans. Une nouvelle manifestation anti-Brexit était prévue aujourd'hui devant le Parlement.
L'administration américaine de Donald Trump a exclu toute dérogation aux sanctions des États-Unis contre l'Iran pour faciliter l'octroi d'une ligne de crédit à Téhéran dans le cadre d'une médiation française. On ne peut pas être plus clair sur le fait que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette campagne de pression maximale et que nous n'entendons pas accorder d'exception aux dérogations, a déclaré l'émissaire américain pour l'Iran, Brian Hook. L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2, mais avec des vents toujours très puissants, poursuit lentement sa route vers les États-Unis. Ceci après avoir ravagé l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de 7 personnes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Des images aériennes de l'île de la Grande Abaco montrent des scènes de destruction catastrophique avec des centaines de maisons privées de toits, des voitures submergées ou retournées, de vastes inondations et des bateaux en miettes. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Hubert Minis a déclaré que les habitants ont vécu des jours d'horreur, craignant pour leur vie et la vie de leurs proches. L'hôpital Wren Memorial, dans le nord de l'archipel, est inondé. Les patients de l'hôpital ont été évacués. Les pistes de l'aéroport international de Freeport restaient sous l'eau, compliquant les secours. Les gardes-côtes américains ont envoyé des hélicoptères pour aider dans les secours. L'ouragan reste très dangereux selon les météorologues qui peinent à en prévoir la trajectoire exacte. Plusieurs parties de la côte du sud-est des États-Unis où vivent des millions de personnes ont été placées en état d'urgence. Des ordres d'évacuation obligatoires ont été émis dans plusieurs zones.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci pour cette première partie. À présent, la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nali Talani.
MTN Nigeria ferme tous les magasins et centres de services du pays jusqu'à nouvel ordre après des attaques anti-sud-africaines contre ses installations dans 3 villes. MTN Nigeria craint pour la sécurité de ses clients et de son personnel. Ces installations ont été attaquées à titre de représailles contre les émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Le Nigeria est le plus gros marché de MTN avec plus de 58 millions d'utilisateurs et représente un tiers du bénéfice principal du groupe. Au Kenya, l'activité du secteur privé a chuté le mois dernier à son plus bas niveau à cause des problèmes de trésorerie dus en partie à des arriérés de factures en provenance des ministères pour des biens et services qui leur sont fournis. L'indice directeur des achats est tombé à 52,9, en baisse par rapport à 54,1 en juillet. Pour terminer cette Minute Éco, le déficit commercial du Maroc a augmenté de 4,3% pour s'établir à 11,5 milliards d'euros au cours des 7 premiers mois de cette année par rapport à l'an dernier. Les importations d'énergie, y compris le gaz et le pétrole, ont diminué de 2,1%. Les envois de fonds des Marocains résidant à l'étranger ont chuté de 1%, tandis que les investissements directs étrangers ont diminué de 17,3% à 985 320 000 euros.
C'est le moment de notre page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le tour préliminaire des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 ont commencé sur le continent.
Oui, le Burundi et la Tanzanie se sont neutralisés 1-1 à Bujumbura, 0-0 entre l'Éthiopie et le Lesotho. L'Érythrée s'est inclinée à domicile devant la Namibie 1-2, 1-1 entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale. Comme l'avait promis la FIFA, ces matchs ont été diffusés en direct sur son site web et sa chaîne YouTube.
Éliminatoire, Jeux Olympiques Tokyo 2020, le Mali tombe devant la Côte d'Ivoire en football.
Hier, les Maliennes se sont contentées d'un match nul 0-0 à domicile lors du match retour de la deuxième journée des éliminatoires. À l'aller à Abidjan, les Ivoiriennes se sont imposées 3-0 et passent au tour suivant. Grosse déception pour le Mali, comme le dit son attaquante de Besiktas en Turquie, Aissata Traoré.
Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, on les paye cash. On a fait le maximum ici, malheureusement on n'a pas pu marquer. Les Ivoiriennes avaient 5 défenseurs. Et nous, on était 2 devant, donc c'était très difficile pour nous de garder le ballon et on n'a pas pu mettre la balle à terre. Ben, il faut retenir juste que la Côte d'Ivoire est une grande équipe. Le Mali aussi n'est pas une petite équipe. On va préparer les prochaines échéances.
Aissata Traoré, attaquante malienne au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Dans les autres rencontres, le Nigeria a pris le dessus sur l'Algérie 1-0. Le Ghana a eu raison du Gabon 2-0, 0-0 entre le Cameroun et l'Éthiopie. Au troisième tour, la Côte d'Ivoire fera face au Nigeria. Belle confrontation entre le Ghana et le Kenya. Le Cameroun devra afficher un meilleur visage contre la République démocratique du Congo. Les matchs allés se jouent le 30 septembre et en retour le 4 octobre.
Des ultras de l'Inter assurent que les cris de singes ne sont pas racistes.
Un groupe de supporters ultras de l'Inter Milan a écrit une lettre à Romelu Lukaku, attaquant belge d'origine congolaise, pour lui assurer que les cris de singes ne sont pas racistes, mais plutôt un moyen de distraire les adversaires pour qu'il ne marque pas. Dimanche à Cagliari, des cris de singe ont retenti au moment où Lukaku s'apprêtait à frapper un pénalty pour l'Inter. Il a marqué pour donner l'avantage à son équipe 2-1 et ses cris parfaitement audibles à la télévision italienne ont continué quelques secondes.
Aucune équipe africaine au deuxième tour du mondial de basket.
Oui, et qui a malheureusement la Tunisie, seul espoir du continent, a été désillusionné par Porto Rico qui l'a défaite 64-67. Troisième défaite de suite 63-80 pour la Côte d'Ivoire, déjà éliminée face à la Pologne. L'Angola a sauvé l'honneur en gagnant son dernier match 84-81 face aux Philippines. Pareil pour le Nigeria, vainqueur de la Corée du Sud 108-66. Désormais, tous les 5 représentants africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Tunisie et le Nigeria, sont éliminés.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Kabadou, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dossiers du jour. Vive réaction au Nigeria aux attaques en Afrique du Sud contre les étrangers africains, tandis qu'Abuja exige dans un communiqué une fin immédiate aux attaques xénophobes. Certains groupes de citoyens nigériens ont déjà commencé à s'en prendre aux Sud-Africains vivant au Nigeria. Écoutez ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La tension monte entre les deux géants du continent suite aux attaques xénophobes contre les Nigériens vivant en Afrique du Sud. Le Nigeria prend très au sérieux les attaques contre ses citoyens et a rappelé son ambassadeur à Pretoria. Sur place, les réactions sont unanimes. Awal Moussa Rafsanjani est un activiste.
Oui.
Nous condamnons ce qui se passe en Afrique du Sud parce que cela est inacceptable. C'est une grosse violation des droits des Nigériens et d'autres Africains qui sont tués en Afrique du Sud. Malheureusement, ce sont des Africains noirs eux-mêmes qui tuent leurs frères africains.
La sécurité a été renforcée ce mercredi au Nigeria suite aux attaques de représailles contre les entreprises sud-africaines dans le pays. La situation est particulièrement tendue à Lagos, la capitale économique, où le supermarché sud-africain Shoprite a été vandalisé par des jeunes Nigériens en colère. Une colère perceptible dans les rues de la capitale Abuja.
Nous avions beaucoup contribué à leur indépendance. Mais comment peuvent-ils nous traiter de la sorte? Et personne ne détient le monopole de la violence.
Je suis vraiment triste parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Les Sud-Africains vivent librement chez nous. Par contre, eux, ils ne veulent pas nous laisser vivre en paix dans leur pays. Cela est très mauvais. Donc, ils doivent changer pour donner la chance à la paix.
MTN, le géant des télécommunications sud-africains, a confirmé des attaques contre ses installations à Lagos, Ibadan et Uyo, dans le sud et le sud-ouest du pays. Des précautions ont été prises pour éviter de telles situations à Abuja, après des appels au boycott et à la violence pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Des renforts de police sont postés autour des centres commerciaux sud-africains dans la capitale fédérale. Le gouvernement tente d'apaiser la tension en rassurant sa population. Godfrey Onyema, ministre nigérien des Affaires étrangères.
Les deux forces de sécurité d'Afrique du Sud et du Nigeria peuvent avoir des arrangements pour permettre une coopération sur place en Afrique du Sud pour éviter la répétition de tels événements.
Même si les deux pays collaborent dans bien des domaines, la rivalité et la méfiance sont très fortes. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy a publié récemment son classement annuel des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Seules 15 universités africaines figurent dans le classement. Sur le continent, l'Afrique du Sud reste en tête. Quels sont les obstacles à un enseignement de qualité en Afrique? Le financement de la recherche dans les universités? Comment adapter l'enseignement supérieur aux réalités du marché de l'emploi? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi fait état d'un climat de peur dans ce pays à moins d'un an des élections générales prévues en 2020. Dans un rapport qui sera présenté le 17 septembre devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette commission décrit comment des autorités locales burundaises et des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, intimident la population burundaise. John Lyndon, adjoint à Genève, Doudou Djen, président de cette commission d'enquête sur le Burundi.
Il y a un climat de peur parce que c'est un contexte préélectoral et nous savons que l'histoire du Burundi confirme que les violations les plus graves des droits de l'homme sont liées à ça. Et ce que nous avons déjà documenté dans notre rapport précédent, c'est la persistance des violations des droits de l'homme. Et toutes les informations que nous avons recueillies, et nous avons fait des enquêtes depuis maintenant des semaines et des mois, indiquent que ces violations-là continuent, persistent. Ce que nous voulons mesurer, c'est est-ce qu'il va y avoir une aggravation à cause du contexte électoral.
Vous parlez de la persistance d'une violation des droits de l'homme au Burundi, mais l'ONU n'est pas autorisée à faire des enquêtes là-bas. Comment vous procédez?
Nous procédons d'une manière classique, la méthode utilisée est de recueillir l'information à toutes les sources les plus crédibles possibles et les recouper. Alors nous les recueillons auprès de qui? D'abord, les contacts électroniques et autres avec le peuple burundais sur place. Maintenant. Deuxièmement, avec la diaspora, utiliser le mot burundais, c'est-à-dire le mot classique, tous les Burundais qui sont à l'extérieur, organisés en ONG, en association, etc., et qui, eux, sont en lien direct avec le pays, leur famille, leurs relations, qui sont informés. Nous savons aussi toutes les informations que peuvent nous donner les partenaires du Burundi, c'est-à-dire à la fois les partenaires bilatéraux, mais pas qui peuvent fournir des informations objectives, mais les ONG internationales, comme Amnesty, le Monde Aïbat, qui font des enquêtes et qui ont aussi des contacts dans le pays, qui publient des rapports réguliers, et enfin les médias.
Le gouvernement burundais pourrait vous répondre que c'est un acharnement, il y a mieux à faire ailleurs, non?
Non, ils l'ont dit. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons trois mandats fondamentaux que nous remplissons. Un, c'est de documenter d'une manière objective et rigoureuse et précise les violations des droits de l'homme. Nous l'avons fait dans nos deux rapports précédents, nous allons continuer à le faire. La deuxième, c'est d'analyser si ces violations-là constituent des crimes contre l'humanité. Troisièmement, nous devons identifier les responsabilités de ces violations des droits de l'homme et enfin formuler des recommandations.
Ça fait des années que l'ONU fait des rapports sur les droits de l'homme et après, quels résultats? Qu'est-ce que vous prenez comme action?
Je vous dirais que la question, vous devriez la poser au Burundi. Posez-la aux organisations non gouvernementales burundaises, à l'intérieur ou à l'extérieur. Eux, ils savent que l'analyse que nous faisons, l'identification des responsabilités et autres, donne un tableau extrêmement précis de la situation. Demandez aux pays membres des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, des États-Unis, aux pays africains et autres. Ils vous diront que nos rapports leur servent d'information pour élaborer non seulement leur stratégie et leur rapport avec le Burundi, mais également en ce qui concerne les droits de l'homme en général. Notre rapport est un rapport absolument crédible. La transformation finale maintenant ne dépend pas de la commission d'enquête.
Doudou Dien, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, joint à Genève.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Royaume-Uni, nouvel épisode du feuilleton sur le Brexit après plus de 3 ans de débats sur la meilleure façon de quitter l'Union européenne. La bataille parlementaire se poursuit avec un vote ce mercredi sur une loi visant à empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne telle que l'envisage le Premier ministre Boris Johnson, entend convoquer des élections législatives anticipées pour le 15 octobre. Où en sommes-nous avec la crise interminable du Brexit? Jacques Aristide a recueilli l'éclairage de John Haley, grand reporter au journal The Guardian.
Ce projet de loi stipule que si à la date du 19 octobre, il n'y a pas de nouvel accord de sortie acceptable au Parlement, le Premier ministre doit absolument demander un nouveau report jusqu'à la fin janvier de l'année prochaine. Donc c'est un projet de loi qui vise à empêcher une sortie sans accord. Le problème, c'est que Boris Johnson a mené campagne pour être élu chef du parti conservateur et nouveau Premier ministre de la Grande-Bretagne sur la promesse qu'il ne demanderait justement jamais de nouvelle extension, de nouveaux reports à la date du Brexit à l'Union européenne. Donc, suite à sa défaite humiliante, il a tout de suite dit que si aujourd'hui les députés, donc mercredi les députés, votent effectivement ce projet de loi, il essaierait de déclencher de nouvelles élections. Le problème, son problème en fait là, c'est qu'il a perdu sa majorité et le problème c'est qu'il n'a pas le droit de déclencher de nouvelles élections lui-même. Il est obligé de demander au Parlement.
La plupart des éditorialistes britanniques estiment ce mercredi que Boris Johnson a perdu le contrôle sur le processus du Brexit. Partagez-vous cet avis?
Oui, en grande partie. Il est difficile difficile de voir comment ils peuvent s'en sortir. Donc Boris Johnson, en fait, se trouve complètement coincé. Il ne peut plus négocier selon ses règles avec l'Union européenne parce qu'il ne peut plus menacer une sortie sans accord, comme il a promis, mais en même temps, il n'a plus de majorité dans la Chambre des communes, donc il ne peut plus gouverner. Donc comment il va s'en sortir, c'est la question que tout le monde se pose. Et ce Parlement, il est bloqué, il est dans une impasse, il est difficile de voir comment le Parlement pourrait s'en sortir sans changer l'arithmétique parlementaire, et on ne voit pas pour l'instant comment on pourrait avoir un nouveau Parlement, puisque les députés vont refuser la demande de Boris Johnson pour de nouvelles élections. Donc on est vraiment dans une impasse.
Le référendum sur le Brexit a fait partir David Cameron et Theresa May. Boris Johnson va-t-il être le prochain? Au bout du compte, le Brexit était-il une affaire trop complexe pour un référendum, d'après vous?
Ça, c'est une très grande question. La dernière partie de votre question, je suis complètement d'accord. C'est une idée franchement stupide de soumettre à un référendum une question aussi compliquée que l'appartenance de la Grande-Bretagne ou la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est le Brexit qui a coûté la carrière politique de David Cameron et de Theresa May, mais la question de l'Europe a fini la carrière de plusieurs premiers ministres conservateurs avant eux. Si Boris Johnson va aussi tomber, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait un très bon début. Il est le premier ministre britannique à perdre son premier vote dans la Chambre des communes depuis 1894. Donc ce n'est pas un début très prometteur.
Le journaliste britannique John Henley du journal The Guardian joint à Paris.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En France, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé des mesures pour lutter contre la violence domestique après une série d'assassinats de femmes qui ont provoqué l'indignation. Depuis le début de l'année, plus de 100 femmes ont été tuées par leurs conjoints, partenaires ou anciens partenaires. La France n'a pas le monopole de la violence domestique. C'est un problème mondial que beaucoup choisissent d'ignorer. Le point avec Nani Talani.
D'après les chiffres publiés par le gouvernement, en France, une femme est tuée par son partenaire ou son ancien partenaire tous les 3 jours. Parfois, des femmes sont tuées parce qu'elles restent avec un homme violent. Beaucoup sont tuées même si elles partent ou signalent aux autorités les menaces dont elles sont victimes. C'est le cas de Julie Duhibe, mère de 2 enfants, assassinée en mars dernier par son ancien partenaire. Son père, Lucien Duhibe, témoigne.
Elle a porté plainte. Je l'ai tué plusieurs fois, 5-6 fois. J'ai porté plainte pour menace de mort, 5-6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on nous a pas écoutés non plus. On n'a pas su pourquoi, comment.
Cette année, Julie Duhibe a été la 30e victime de violences domestiques en France. Après elle, 71 autres femmes ont été tuées. Ce bilan macabre a suscité l'indignation du public et des demandes d'action. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi que le gouvernement a créé un fonds pour des logements d'urgence aux victimes de ces violences domestiques.
Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logements d'urgence. 250 seront créés en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logements temporaires. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants.
D'autres mesures comprennent des programmes d'éducation pour les familles dysfonctionnelles et la police s'occupe des plaintes ainsi que des sanctions pour les agresseurs.
Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint.
La violence domestique est malheureusement une pratique courante dans le monde. D'après les Nations Unies, près de 30 000 femmes ont été tuées par leurs partenaires intimes en 2017, principalement à cause d'un manque de protection pour les femmes maltraitées.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Chiro. À la console, Justin Tuet. À la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique. Bienvenue à bord.